France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art. C'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lorsqu'il mourut en 1528, à 56 ans, Albrecht Dürer était immensément célèbre. Alors, ses amis artistes prirent l'empreinte de son masque funéraire et prélevèrent une mèche de ses cheveux. Elle est aujourd'hui encore pieusement conservée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. N'y a-t-il que cela que l'on ait gardé du corps de l'artiste? Évidemment non. Dürer a tellement peint, dessiné, gravé, qu'il est partout dans son œuvre. Et il a tant écrit également, tant fasciné ses contemporains par son génie, mais aussi par ses extravagances, qu'on sait presque tout de lui. Comment il s'habillait, ce qu'il mangeait, et jusqu'à la forme des oreillers qu'il a dessinés, cherchant dans leurs plis la forme de ses rêves. Les artistes furent-ils les premiers à éprouver à la Renaissance et par ces techniques du corps dont leur peinture garde la trace, un souci de soi? Allons-y voir. En affrontant le regard de celui qui nous toise, main croisée, depuis 1498, dans cet autoportrait au gant, conservé au musée du Prado, à Madrid. Avec les historiens Andreas Beyer et Jean-Claude Schmitt, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Hortense Bellotte, nous avons rendez-vous avec, non pas un artiste, mais son corps, et la conscience artistique qu'il eut de sa puissance et de sa fragilité. Car dans son autoportrait, Dürer prit les habits d'un prince et les traits du Christ. Allons à sa rencontre, il est vrai que sa réputation le précède. Et d'ailleurs, écoutez ce qu'en disait Frédéric Taddeï en 2010 dans son émission Dardard.
En 1493, avec cette peinture à l'huile, Albrecht Dürer signe le premier véritable autoportrait de l'histoire de l'art. Certes, les peintres égyptiens de l'Antiquité se représentaient sur les murs des pyramides, mais c'était pour évoquer leur travail et signer en quelque sorte leurs œuvres. De même, les artistes européens du Moyen-Âge qui, dans les enluminures, ajoutaient leur visage à côté de leur signature. Dürer, lui, est un peintre de la Renaissance, les débuts de l'individualisme. Et à 22 ans, il fait de sa personne l'unique sujet du tableau, un sujet à part entière. Il en fera même le sujet principal de son œuvre, puisqu'il multipliera les autoportraits tout au long de sa carrière. Notre homme était-il complètement narcissique? On peut le supposer.
Oui, ou pas. Ça, on va le voir. Andreas Beyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire de l'art moderne à l'université de Bâle et vous avez dirigé le Centre allemand d'histoire de l'art de Paris. Vous avez publié de nombreux travaux sur l'art et l'architecture au temps de ce qu'on appelle en Allemagne le classicisme et le romantisme. Et votre histoire du portrait a été traduite chez Citadel et Masneau en 2003. Mais c'est chez Actes Sud qu'est paru en 2023 votre beau dernier livre intitulé « Le corps de l'artiste ». L'empreinte oubliée de la vie dans l'art, qui propose une autopsie de cette ambition qu'eurent les artistes depuis la Renaissance, faire corps avec leur œuvre. Et là, on retrouve Dürer, qui est d'une certaine manière souvent le point de départ de vos analyses.
Oui, au début, j'avais l'intention de travailler sur les artistes italiens, mais à un certain point, Dürer s'imposait.
Oui.
Et c'est pas seulement à travers ses œuvres, ou par ses œuvres, mais par ses écrits, par le journal intime, par la chronique de la famille, etc. Il est devenu le protagoniste à la fin,
Mais... Et c'est même lui qui orne la couverture de votre livre, on va en parler. Bonjour Jean-Claude Schmitt.
Bonjour.
Vous êtes historien médiéviste, l'un des maîtres de l'anthropologie historique, à la tête d'une œuvre imposante qui prend pour objet le corps, les rites, les rêves, le temps, pour reprendre le titre d'un de vos livres paru chez Gallimard en 2001. Mais on pourrait aussi bien citer La raison des gestes, 1990, Les revenants, 94, Les rythmes au Moyen-Âge, 2016, autre triptyque de vos obsessions historiennes. Votre dernier livre est paru aussi en 2023 chez Gallimard, sous le titre « Les images médiévales, la figure et le corps ». C'est un recueil d'études autour de la notion d'empreinte, vous commencez d'ailleurs avec celle de la main, hein, préhistorique de la grotte Kosker, mais aussi sur l'empreinte que fait dans notre conception des images la doctrine chrétienne de l'incarnation. Et là, je dirais que c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour vous, médiéviste, Dürer, c'est plutôt un point d'aboutissement.
Exactement, c'est un point d'aboutissement, mais... Je le fréquente, si j'ose dire, depuis très longtemps.
Oui, voilà. Et vous allez évidemment nous expliquer en médiéviste que des représentations de soi, on n'a pas attendu la Renaissance pour en voir.
Mais en même temps, il y a bien sûr une singularité très forte chez Dürer dont il faudra tenir compte.
Eh ben, commençons avec cet autoportrait. C'est celui de Madrid, c'est le deuxième des trois principaux autoportraits peints. Hein, l'un en 1493, l'autre en 1498, disons, le nôtre, et puis 1500. Que voit-on, Andreas Beyer?
On voit un homme à trois... quart, placé en buste, placé devant une fenêtre. Derrière lui, ça on voit pas très bien, c'est un peu sombre. Il y a un arc qui sert ici comme signe de nobilité. Mais ce qui est le thème principal, c'est la figure de cet jeune homme qui est placé à trois quarts. Il regarde, il regarde l'observateur. Il est devant cette fenêtre. Ce qui est tout de suite évident, c'est qu'il y a deux mouvements dans ce tableau qui correspondent, et c'est pratiquement une lettre L.
Oui.
C'est la fenêtre qui forme un L, et c'est lui aussi, avec son corps, avec ses mains, avec ses bras. Et dans cette correspondance, je crois, il y a un message qui est tout de suite présent. L'art est la fenêtre sur le monde, et l'artiste est pratiquement celui qui représente cette fenêtre.
Et en même temps, on sait qu'on doit à Dirk Boots d'avoir introduit la fenêtre dans le genre de l'autoportrait et que, d'une certaine manière, Dürer, artiste de Nuremberg, va découvrir cela, les peintres flamands, en Italie. Qu'est-ce que vous voyez, justement, vous, Jean-Claude Schmitt, historien des rythmes, des corps, de la figure? Sa figure est très singulière, quand même, ne serait-ce que par ce qui est atypique à ce moment-là, c'est-à-dire une barbe et des longs cheveux.
Oui, je vois bien sûr une multitude de choses, et Andreas Beyer le signale très bien dans son livre magnifique. Il y a, c'est une image très ambivalente d'abord, parce que c'est à la fois, comme il le dit, le dandy,
oui,
le jeune prince,
très richement élégant,
très raffiné dans son vêtement, dans sa posture, et en même temps c'est une image christique, c'est le Christ, et ça on va bien sûr en reparler, par les cheveux, par la barbe, par le visage émacié. Alors c'est aussi un tableau, en effet, marqué par ce L, mais qui est aussi, qui a une couleur étonnante, très sombre, en effet, très noire, et blanche en même temps, et dorée. Hein, c'est ces trois couleurs fondamentales, majeures, je dirais, le noir, le blanc, l'or.
Doré comme
pas
ses...
de rouge.
Oui, doré comme ses cheveux, et doré aussi comme l'inscription qui est sous le L,
voilà, hein, comme le galon de sa blouse, si on veut.
Oui.
Et puis, bien sûr, c'est aussi un autoportrait dont on voit les mains, dont on voit les bras. Alors que jusque-là, si on pense à Van Eyck, par exemple, ou à Raphaël, à peu près au même moment, eh bien, il n'y a que le visage, hein, ou le cou, pas les bras.
Van Eyck, oui, Van Eyck, justement, Andreas Beyer, je continue, je suis sous le L, là, hein, c'est-à-dire juste sous la fenêtre, il y a cette inscription en lettres d'or, comme Van Eyck l'avait fait, mais comme Pline dit que Zeuxis, le peintre antique, l'avait également brodé sur son vêtement, qui dit ceci: « J'ai peint ceci d'après ma figure, j'étais âgé de 26 ans. » Albrecht Dürer. Déjà, dans cette signature, il y a une conscience de soi et une revendication très, très puissante, très hautaine.
Oui. J'ai fait ce dessin, j'ai peint cette figure selon ma propre figure. Ça veut dire qu'il prend une distance à soi-même. Pour moi, c'est une... Quand vous évoquez la... Vous avez mentionné la signature de Van Eyck, qui est... c'est son nom et la date. Et en haut, il y a son motto, « Als ich kann », comme je peux. Ça, c'est Van Eyck. Et Dürer, il dit, j'ai peint, je me suis rendu comme je suis. Donc, il y a une prise de distance à soi-même que je trouve présente dans cette inscription et dans la peinture même.
Il faut évidemment souligner que Dürer a toujours signé, toujours imprimé sa marque personnelle, qui est aussi d'ailleurs un droit, hein, qui a une valeur juridique.
Il était très jaloux de cette marque, d'ailleurs.
Il en est très jaloux, et en effet, il admet, vous l'avez montré dans votre livre, qu'il admet que l'on copie ses œuvres, mais pas que l'on copie sa signature. Hein. Le fameux AD de Albrecht Dürer.
Alors, cet autoportrait est dit autoportrait au gant. Pourquoi? Eh bien, écoutez une interview de Joseph Körner, qui est un historien de l'art, mais aussi un scénariste américain, dans un documentaire de Frédéric Ramad, Arte 2022, qui s'appelle « Le mystère des autoportraits ».
Dürer a découvert une nouvelle idée de l'artiste, celle de l'artiste gentilhomme, de l'artiste qui s'élève non seulement au-dessus du simple artisan, mais qui incarne une sorte de subjectivité universelle, une conscience supérieure, plus souveraine que tout autre, sauf peut-être celle d'un prince.
L'artiste se peint en prince, arborant des vêtements d'un luxe inouï au regard des habitudes de sa ville. Et pour prendre assez de distance avec la caste des artisans dont il cherche à se distinguer, il dissimule ses mains sous une précieuse paire de gants.
Mais il y a un hic dans tout ça. Car justement, ces gants qu'il porte, cette magnifique paire en cuir de chevreau, si on regarde le tableau de près, on voit qu'il les a peints en partie avec ses doigts. Il a tapoté les pigments encore frais sur le panneau pour parfaire l'illusion du cuir. C'est un peu paradoxal, car il se représente avec des gants, mais il doit les enlever pour réaliser quelque chose de très manuel, et même de salissant, si on pense à l'état de ses doigts après avoir retouché son tableau.
On voit d'ailleurs un peu de peau qui dépasse entre sa manche et ses gants. Là, on est au cœur de votre livre, Andreas Beyer, la question de l'empreinte, et d'ailleurs très concrètement, les empreintes digitales du peintre y sont.
En effet, on a toujours pensé que c'est un tableau qu'il a créé après une visite à Venise dans les années 90, même si c'est pas vraiment documenté, parce que cette pratique de l'empreinte digitale, c'est une pratique qu'on connaît des artistes vénétiens, Bellini, etc. Et là, on sait aujourd'hui que c'est une pratique assez diffusée, aussi en Allemagne, à l'époque, les artistes travaillaient avec leurs doigts sur le tableau, sur les couleurs, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une épreuve pour son séjour vénétien à cette époque. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces gants cachent pas les mains d'un artisan. Longtemps, on a pensé que ces gants sont plus ou moins l'expression de Dürer de s'éloigner de son métier artisanal et de se représenter d'une façon noble. Mais je crois qu'il utilise les gants pour montrer que ses mains sont tellement importantes qu'il faut les protéger. Donc ça souligne l'importance du travail manuel.
À Venise, je suis devenu un gentilhomme, écrit-il à Willibrand Pirckheimer en août 1506. Et vous montrez bien, Andreas Beyer, que avec Raphaël, d'ailleurs, il s'observe, il se scrute, il s'échange à la fois des dessins et une certaine conception de l'artiste. Tout est là, tout est déjà dans cette ambiguïté. Jean-Claude Schmitt, bien sûr que c'est les gants d'un gentilhomme, mais en même temps, c'est quand même par la main qu'il anoblit son art. C'est pas une question d'idéal. Là, c'est vraiment une question de main de l'artiste.
Tout à fait. Alors, c'est beaucoup de choses à la fois, il me semble. D'abord, il protège sa main droite par sa main gauche. La main droite est dans la main gauche. Et ça, on pourra le voir dans un autre autoportrait, celui de 1500, hein, où la main joue un rôle absolument central aussi. La question de l'empreinte chez le peintre, c'est une pratique que, d'une certaine façon très répandue, parce, et pas seulement en Allemagne ou en Italie, mais parce que on trouve dans pas mal de sceaux de cire, par exemple des poils de barbe, ou aussi l'empreinte des doigts, hein, l'empreinte digitale. Donc c'est une pratique qui a aussi une valeur juridique, une fois de plus. Et le gant aussi, d'ailleurs. Mmh. Mmh. Le gant aussi. Hein. Je rappellerai aussi, d'ailleurs, que, puisqu'on a affaire à Dürer, qu'en allemand, un gant, c'est Handschuh. C'est-à-dire, c'est, en somme, la chaussure de la main. Hein. Et on pourra peut-être en parler quand on parlera aussi des sandales de Dürer.
Ah bah, parlons-en maintenant, parce que, d'une certaine manière... voilà,
il protège ses membres, il protège sa main, il protège son pied.
Et quand je disais anatomie de la constitution au fond artistique du corps comme sujet et comme objet, c'est bien ça, parce que vous montrez que il est très attentif, il peint ses mains, il peint non seulement ses pieds, mais au fond ses sandales et même les semelles de ses chaussures. Oui. Vous avez un chapitre assez extraordinaire sur ses chaussures. Et donc, c'est l'ensemble de des parties de son corps qui sont, pour lui, objet d'attention.
Oui, c'est ça. C'est ce fameux dessin de Dürer au British Museum à Londres. C'est un projet pour des chaussures, pour ses propres chaussures. Je crois qu'il est le premier artiste qui a projeté ses propres chaussures.
Et là, vous le comparez à Van Gogh, d'ailleurs.
Oui, parce qu'on a parlé des chaussures de Van Gogh comme un autoportrait caché, un crypto-autoportrait. Et je crois aussi que les chaussures de Dürer, c'est ça. C'est un autoportrait caché, cryptique, si on veut. Mais en même temps, comme vous venez de le dire, M. Schmitt, les gants... Et les chaussures sont deux fois des moyens pour protéger le corps. Oui. Et pour éloigner, pour prolonger le corps.
Et dans les deux cas, il y a une signification christique et divine. Parce que c'est évidemment toujours en même temps le portrait du Christ, d'une certaine façon, ou de l'homme, fils de Dieu. Hein. Et la main, bien sûr, c'est la main de Dieu. Et les pieds, c'est aussi les pieds de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque Dieu... monte au ciel, c'est la scène de l'ascension. Il laisse sur terre l'empreinte de ses pieds. Et je pense que tout ce thème des terminaisons, en quelque sorte, de la main et des pieds, se réfère aussi à cette conception incarnationnelle et christique.
Et justement, on peut en parler maintenant, Jean-Claude Schmitt, vous nous avez mis l'eau à la bouche sur cette question de la main droite et de la main gauche. Dürer n'intervient qu'une fois dans votre dernier livre, mais à un endroit essentiel, justement, sur cette question de l'incarnation, c'est pour le troisième autoportrait, vous l'avez dit, celui de 1500. Et là, se joue dans la symétrie entre la main droite et la main gauche quelque chose de déterminant qui, justement, nous introduit à ce thème christique.
Oui, alors en quelques mots, parce que c'est évidemment d'immenses problèmes qui se posent. Mais d'abord, c'est un portrait de 1500. 1500, c'est un chiffre rond. Mmh. C'est le jubilé. Cette année, en 2025, c'est aussi un jubilé. Hein. Et ça, c'est une vieille pratique qui a été rénovée au XIVe siècle. Et le jubilé, c'est donc une fête universelle de l'Église. Et il marque cette date par son autoportrait en Christ. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, puisque dans l'autoportrait de 1500, dit à la fourrure, il est de face, il est frontal.
Les deux premiers sont de trois quarts.
Il est de trois quarts.
Et là, il est vraiment de face, une face christique.
Alors, comment peindre son autoportrait? Comment faire un autoportrait? Il faut évidemment se mettre devant une glace, devant un miroir. Ce n'est pas de grands miroirs, comme vous le rappelez très bien, c'est des petits miroirs. Et c'est devant un miroir qu'on se repère. Autrement dit, l'image que l'on voit, c'est une image inversée. Et ce qui me paraît remarquable dans cet autoportrait de 1500, c'est qu'il élève, il exalte sa main droite. Mais en réalité, la main droite, c'est celle qui peint. Donc, il ne peut pas à la fois la montrer dans l'image et peindre en même temps. Mais ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait devant le miroir, c'est d'élever la main gauche. Et dans le miroir, la main gauche est devenue la main droite. C'est donc la main de Dieu, là encore. Hein, la main droite, c'est la main de Dieu, c'est la main de l'homme fait à l'image de Dieu. Et c'est tout cela qui est contenu, toute cette valeur, disons, incarnationnelle, christique, et aussi eschatologique, c'est-à-dire que c'est aussi un signe vers la fin des temps qui est là présent. Tout cela a été représenté par Dürer dans son autoportrait.
Je vous cite Jean-Claude Schmitt, ce n'est plus Dieu qui a fait l'homme à son image, c'est l'homme qui se peint à l'image de l'image incarnée de Dieu. Andreas Beyer, d'une certaine manière, dans le deuxième, celui que nous regardons aussi, le visage, les traits, les cheveux longs, la blondeur, tout cela aussi d'évidence nous mène sur cette voie christique.
Oui, il s'inscrit dans l'iconographie de Jésus, du Christ. En effet, à l'époque, on le sait bien, les cheveux, on ne les portait pas longs. Dans les portraits que nous connaissons aussi de Dürer, de ses contemporains, les cheveux, les hommes, ils portent les cheveux plutôt courts.
Soit on a la barbe, soit on a les cheveux longs.
Soit.
Mais les deux ensemble,
oui,
ça ne va pas normalement.
Oui, on a les cheveux longs, mais pas jusqu'aux épaules.
Et pas à cet âge-là, ouais. En tout cas. Pas
donc, ce
ans.
Qu'on voit ici, c'est vraiment une iconographie religieuse. L'autre inscription de Dürer dans l'image de Dieu. Et on sait que c'est et ce n'est pas seulement sur cette image, mais en réalité, il portait ses cheveux comme ça. Et on sait que ses contemporains se sont toujours moqués de lui.
Oui, il y a des pages amusantes dans votre livre, Andreas Beyer. C'est l'homme au miroir, c'est le dandy Dürer. Et puis, un de ses amis se moque de lui en disant qu'il tourne et frisote à longueur de journée sa moustache pour qu'elle rebique comme des crocs de sanglier.
Voilà, il se moquait de lui, mais je crois que Dürer, vraiment, il ne se représente pas seulement comme ça, mais il incarne.
Alors écoutez, il y a cette question effectivement des deux corps de Dürer, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire d'une certaine manière, quel corps nous voyons, celui qui était le sien ou celui qu'il s'imaginait. Bah, écoutez justement ce que nous dit Mathieu Pot-Bonneville à ce sujet. Il nous envoie des cartes postales, il est directeur du département culture et création du Centre Beaubourg.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, cette semaine, je vous adresse une carte postale depuis ma salle de bain. J'espère que vous n'en prendrez pas ombrage, mais la salle de bain m'a paru le lieu idéal pour interroger l'apport du cinéma fantastique à la phénoménologie husserlienne et, de façon plus générale, à l'intelligence du corps et de l'autoportrait. C'est qu'une salle de bain, voyez-vous, c'est un espace où tour à tour, on se regarde et où on se savonne, où l'on se scrute et où l'on se frotte. Bref, un lieu qui ordonne le rapport à soi tantôt à l'œil et tantôt à la main. D'un côté, j'observe mon corps comme chose parmi les choses, dont le miroir, mes traits, se détachent du carrelage à l'arrière-plan. De l'autre côté, lorsque je murmure à mon reflet « Tu as encore des valises sous les yeux ce matin », lorsque ma main tâte mes paupières pour en éprouver le gonflement, dans mes paupières et dans la pulpe de mes doigts, se propage l'intimité d'une sensation dont les coordonnées sont tout autres. S'y indique non le corps que j'ai, mais le corps que je suis. Non cette réalité objective dont le pèse-personne peut m'indiquer le poids, mais le déploiement d'une subjectivité à fleur de peau, je me découvre au milieu du monde, engagé avec les choses dans un faisceau de relations sensibles. Ce sont ces deux modalités d'accès au corps que Husserl s'attache à distinguer, au livre 2 des idées directrices pour une phénoménologie, au travers d'une distinction cardinale entre « Körper » et « Leib ». Leib, concept que l'on traduit malaisément en français par « chair » ou par « corps propre ». Or, il reste à se demander ce que devient cette distinction lorsqu'elle croise le chemin de la représentation ou de l'image. Et lequel de ces corps, au juste, est concerné par la réplication artistique? Ce que retient la toile, est-ce bien ce corps que je vois ou celui que j'éprouve? C'est ici que je croise le cinéma fantastique, et plus précisément « The Fly », réalisé en 1986 par David Cronenberg. Vous vous en souvenez sans doute, le film raconte l'histoire d'un scientifique qui, au moment de tester sa machine à téléportation, fusionne avec une mouche infiltrée à son insu dans l'appareil. Fusion qui le transformera peu à peu en créature hideuse. Mais à mesure que le récit porte à se demander à qui l'on a affaire, de l'homme ou de la mouche, le personnage quant à lui se demande si son corps est encore le sien, et en quel sens. Car d'un côté, s'il a survécu au transfert, c'est bien que celui-ci ne s'est pas contenté de reproduire de son corps le seul substrat physique. Comme le personnage l'explique, impossible de téléporter de la chair sans la poésie qui l'anime. Je cite « Even a good steak is poetry ». Mais de l'autre côté, ce corps, une fois reproduit, lui devient extérieur. Il s'en détache, il l'observe devenir par le seul jeu de la transcription machinique une chose étrangère à lui. D'abord les ongles, puis les cheveux. Un peu plus tard, une oreille et divers autres organes se décrochent par plaques. Et il les dispose, devinez où ? Eh oui, sur les étagères de son armoire de toilette. Si les plus belles scènes de The Flies se passent dans la salle de bain, c'est que celle-ci n'est plus le lieu où se réconcilient le corps observé et le corps ressenti, dans l'intimité retrouvée du sujet et du monde, mais le lieu où des morceaux de viande deviennent l'objet d'une fascination morose, collection dont de l'autre côté du miroir, le propriétaire sent palpiter dans sa chair une inquiétante étrangeté. Il n'est pas interdit de voir dans cet affolement l'indice de l'inquiétude qui pourrait nous saisir si nous nous demandions sérieusement ce qui transite vers le portrait du corps de celui qui entend se dépeindre à travers cette autre machine bizarre qu'est un chevalet. Cela dit, l'eau commence à refroidir. Tournez-vous, Patrick, je vais devoir sortir de la baignoire.
France Culture. Allons-y voir.
Que peut l'amour amer contre le cynisme d'un temps où le plus fort vient par derrière vous saisir avec des gants.
Patrick Boucheron.
Oui, alors on n'est pas si loin que ça, au fond, de l'incarnation chrétienne, surtout si on se souvient de « Je vous salue Marie » de Jean-Luc Godard, où justement la salle de bain avait toute sa place. Ce que vous montrez dans vos travaux, et en particulier dans votre dernier livre, Jean-Claude Schmitt, c'est que justement, on n'a pas attendu la Renaissance pour avoir des représentations de soi dès le XIIe siècle, précisément parce que la matrice chrétienne de la représentation dans notre conception occidentale des images, c'est l'incarnation.
Absolument, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une très très longue histoire. Et là, on a à la Renaissance un tournant, certainement, mais ça n'est pas un début absolu. Il est évident que la rupture est là, et en même temps la continuité. Je dirais, pour être très schématique, qu'on passe du corps de l'image, qui est effectivement le titre de mes livres, mais le corps de l'image au corps de l'artiste. C'est-à-dire, le corps de l'image, c'est cette puissance incarnationnelle de l'iconographie chrétienne qui distingue le christianisme des deux autres grands monothéismes, le judaïsme et l'islam, qui ont refusé l'image. Et pourquoi est-ce que le christianisme accepte l'image? Eh bien, parce qu'il y a le corps du Christ. Parce que le Christ s'est fait homme et qu'il dit « Qui me regarde voit Dieu mon Père, je suis l'image, l'homme est à l'image de Dieu et moi je suis l'image du Père. » Voilà, et donc on est là dans ce... Seulement les images médiévales, en effet, n'ont pas cette puissance subjective, je dirais, du corps que l'on a avec Dürer et puis des artistes italiens. On n'a pas le même matériau, on n'a pas les mêmes écrits, et on n'a pas non plus cette présence extraordinaire que l'on trouve ici dans les autoportraits de Dürer. C'est une image, l'image médiévale est souvent anonyme.
Bien sûr.
Pour commencer.
Qu'en pensez-vous, Andreas Beyer? Parce que c'est vrai que nous autres médiévistes, vous savez, on résiste à cette idée qui est si importante chez Jacob Burckhardt, l'historien suisse des années 1860, que l'individu serait né à la Renaissance. En fait, ce qui change, c'est ce rapport, comme le dit Jean-Claude Schmitt, du corps de l'image au corps de l'artiste. Mais ça tombe bien, parce que le corps de l'artiste, c'est le titre de votre livre, et vous en décrivez, au fond, toutes les facettes, toute l'anatomie, toutes les empreintes, toutes les traces.
Oui, mais j'ai inclus aussi un dessin d'un artiste médiéval, Hilde Berthus, une miniature qui raconte de la nutrition de l'artiste. Donc, le concept du soi, le soin, pour soi-même, de soi-même, est un...
La conscience de soi, c'est ça qui
la
vous
conscience
a
mis, et aussi le...
au sens de Michel Foucault, c'est ça qui vous a, au fond, mis
la
sur la piste.
Oui. Le soin qu'il faut avoir avec soi-même, c'est un... En effet, Michel Foucault, là, c'est vraiment... pour moi, c'était l'idée qui m'a guidé. Et bien sûr, ce n'est pas la Renaissance qui invente ça, c'est clair. Mais la documentation est plus riche. à partir de l'époque où on pouvait emprunter des livres, etc. Donc, c'est une question des médias, peut-être, qui changent. Et bien sûr, l'idée de l'image change, ça aussi. J'ai beaucoup aimé cette carte postale parce qu'il y a un dessin de Dürer, celui de Weimar, où il se représente tout nu.
Oui.
Et c'est une scène de bain,
oui.
Très probablement. Et là, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la carte postale, parce que c'est la salle de bain où on prend soin de soi-même, où le corps est au centre de l'intérêt. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette idée de la distance. Quand on se voit, on se demande qui
on est.
Qui on est. On se voit pas, on se voit à l'inverse. Donc il y a toute une problématique autour de la du propre image qui est dans la salle de bain, c'est le lieu où l'image est à l'enjeu peut-être.
Et puis vous l'avez dit, l'un et l'autre, c'est ce corps, le corps de Dürer, c'est d'abord un corps écrit, c'est-à-dire que son immense spécificité, c'est d'avoir tant écrit un journal, des lettres, et d'une certaine manière d'avoir consigné sa vie même.
Oui, il me paraît très important de comprendre la relation entre l'écrit et la peinture. Mmh. Parce que cette question de la subjectivité, je dirais ça plutôt la subjectivité plutôt que l'individualité, hein, qui est un mot bon, qui pose ici problème. Mais la subjectivité, elle passe par des écrits bien avant d'arriver dans la peinture avec Dürer et d'autres. Et pour moi, le lieu de cela, c'est le monastère. C'est au XIIe, XIIIe siècle, les moines qui ont l'habitude de réfléchir, de faire leur examen de conscience, et qui parlent d'eux-mêmes à la première personne et scrutent leur conscience et l'écrivent. Et ce qu'ils scrutent en particulier, c'est leur rêve. Et c'est un moyen, évidemment, de revenir à Dürer, on va certainement en parler, c'est la place du rêve dans cette découverte de l'individu ou la découverte du sujet.
Et puis la subjectivité, pardonnez-moi, mais qui en parlait mieux que Claude François en 1966 ? C'est moi.
C'est moi, je suis revenu, c'est moi, dit, tu ne me reconnais plus. C'est moi, le petit blond qui traînait dans les cours. C'est moi, le sale gosse qui s'est enfui un jour. C'est moi, je t'en prie, rappelle-toi. C'est moi, ne me chasse pas. Souffrir. C'est moi, je t'en prie, rappelle-toi. C'est moi, ne me chasse pas.
Dans votre livre « Le corps de l'artiste, empreinte oubliée de la vie dans l'art dont nous parlons », il a été publié en 2023 chez Actes Sud, Andreas Beyer, il est organisé en courts chapitres très suggestifs, et il y en a un très beau qui s'appelle « Le corps vulnérable », celui peut-être qu'on découvre dans une salle de bain. Il y a cette question de la souffrance. Alors, elle est christique, la souffrance, mais elle est aussi terriblement humaine, et Durer l'a décrit, l'a dépeint, ce corps souffrant, fatigué, vieilli.
Il observe son corps tout le temps. Il écrit de ses états quand il a la fièvre, quand il est malade, mais aussi quand il se sent bien.
Oui.
Donc il documente, pas en continuation, mais très souvent, il documente les états physiques, ses états physiques. Et quand il parle de la souffrance, là, je trouve qu'il y a un côté un peu, là aussi, christologue, pour ainsi dire, parce qu'il souffre. Mais quand il parle de ses souffrances, on a toujours l'impression que c'est une souffrance pour des autres.
Mais tout de même, il y a ce dessin, Andreas Beyer, extraordinaire, où il montre l'endroit où il souffre,
là,
son
côté. Là, où il y a le cercle jaune,
oui.
Là, il me fait mal. C'est ça, l'inscription de ce dessin de Brême. Et probablement, ça a été adressé à un médecin lointain auquel il voulait donc dire ou demander qu'est-ce que j'ai. On ne sait pas bien la fonction de ce dessin, mais on imagine que c'était adressé...
C'est une consultation à distance pour
vous. Oui, voilà. Probablement, c'était une espèce comme ça. Mais au même temps, quand il parle de ses maladies, il s'adresse aux autres. Et ça, c'est, pour moi, ça, c'est important. C'est-à-dire, il souffre pour les autres. Mmh. Il y a cet aspect, je dirais, presque christologique là-dedans.
Dans ce dessin, il montre donc ce point de douleur. Et vous
qui
dites
irradie d'ailleurs. Hein,
que qui irradie, dans qui le... irradie, et puis qui a une couleur jaune dans un dessin noir et blanc, évidemment. Et vous dites dans votre livre que c'est l'endroit de la rate. Du foie, de la rate. C'est-à-dire qu'il y a là aussi un sens médical très fort qui pointe vers la mélancolie.
Oui, voilà.
La mélancolie, c'est ce tempérament qui procède de la bile noire, qui est l'une des humeurs du corps.
Cette mélancolie que Durer, évidemment, a gravée à maintes reprises.
Naturellement, la fameuse gravure Melancholia 1. Mmh. Et elle est très importante, bien sûr, cette mélancolie, d'où l'importance de ce geste, c'est qu'elle est très ambiguë, elle aussi, ou ambivalente, plus exactement. Elle pointe à la fois du côté de la dépression, du mal, de la terre, de la noirceur, etc., et en même temps de la création et du génie. Et donc, toute son œuvre peut se lire aussi à l'aune de ce thème de la mélancolie, qui est un thème incarné, s'il en est, puisque on rejoint ici le foie, la rate et la bile.
Et il y a la mélancolie qui est associée à Saturne, mais il y a aussi une mélancolie qui est associée à Mercure. Mm. Et Durer, il est né dans le signe des Mercure. Mm. Et pour lui, c'était très important. Les astres, les étoiles, pour lui, c'était...
Le premier autoportrait, d'ailleurs, il a ce qu'on a appelé... Autoportrait au chardon, en fait, vous montrez que c'est une herbe étoilée qui dit sa bonne étoile, en fait.
Hein, il y a l'inscription dans ce tableau au Louvre qui dit « Ce qui est écrit en eau nous influence mm-hmm. ». Ça veut dire que ce sont les zodiacs. Et lui, il est né au signe du Mercure. Et la mélancolie mercurienne est celle qui a la force créatrice. Voilà.
Ce que je remarque, d'ailleurs, Andreas Beyer, c'est que la première image de votre livre, c'est une image d'art contemporain. C'est l'art contemporain qui vous mène à ce sujet. Et cette première image, c'est une image d'une grande artiste britannique, Tracy Emin. Écoutez-la.
In 1998,
en 1998, je suis tombée dans une grave dépression et je suis restée 4 jours au lit. J'étais endormie et à moitié inconsciente. Quand une fois je suis sortie du lit pour prendre de l'eau, je suis revenue dans ma chambre et n'en revenais pas de ce que je pouvais voir. Un désordre absolu et le déclin de ma vie. Et puis j'ai vu le lit hors de ce contexte de cette toute petite chambre et j'ai vu ça comme un grand espace silencieux. J'ai réalisé que je devais emmener le lit et tout le reste dans une galerie.
I was nominated for the Turner Prize in 1999.
J'ai été nominée pour le prix Turner en 1999 et honnêtement, je n'ai jamais cru que ça causerait autant d'histoire. Je pense que dans les années 90, l'art britannique faisait grande impression et que les tabloïds étaient sincèrement intéressés, peu importe comment ils l'ont mis en place. Donc le public s'y est intéressé et je pense que The Bed a capturé l'imagination des gens. C'était une bonne chose pour l'air du temps. Pour moi, il était important de le rapporter à la Tate, mais je voulais être montré dans un contexte différent de la Tate. Donc j'ai voulu qu'il soit montré historiquement. J'ai choisi Francis Bacon car sa vie était en quelque sorte un peu chaotique et il vient juste de faire tout ce qu'il voulait faire, bu tout ce qu'il voulait boire, coucher avec qui il voulait coucher. Il était un marginal au sein de la société. Les peintures que j'ai choisies comportent ces grandes ondulations de chair en train de copuler et ces éléments tournants et ces plis et tout le reste. C'est presque la même chose pour The Bed. The Bed est pliant, The Bed est tournant, The Bed est en mouvement. Les peintures de Francis Bacon ne sont pas statiques. Elles ont un mouvement total, tout comme The Bed.
Toi, si Emine sont dits de douleur, tachés de son sang, portant l'empreinte de sa mélancolie. Je signale une exposition « Sexe et solitude » au Palazzo Strozzi à Florence jusqu'au 20 juillet où certaines de ses œuvres sont exposées. S'y expose un corps qui souffre, qui saigne, qui s'effondre. Je la cite « Je veux que les gens ressentent quelque chose lorsqu'ils regardent mon travail. Je veux qu'ils se sentent eux-mêmes. » Et ça, j'ai l'impression que si vous l'avez mis en ouverture de votre livre, Andreas Beyer, c'est pour aussi donner ce sens-là à cette réflexion sur le corps de l'artiste.
Oui, c'est « My Bed », c'est pour moi vraiment une œuvre assez éloquente, parce que ce sont les traces de son corps, mais c'est son corps en absence qui est l'œuvre.
Oui.
Donc l'œuvre, le corps de l'artiste devient l'œuvre même. Et si on regarde l'art contemporain, si on évoque le nom de Marina Abramovic par exemple, le corps est le sujet des artistes. Donc dans l'art contemporain, le corps, il est omniprésent. Et c'est un peu ça qui m'a aussi mené à écrire ce livre. C'était l'expérience de l'art contemporain qui m'a posé des questions. Je me suis posé la question, est-ce que ça n'existait peut-être pas aussi un peu avant, voilà.
Et je crois qu'il y a une différence là, c'est que là vous avez affaire à une artiste femme.
Ah ben ça, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure avec Hortense Bellotte, justement.
C'est un peu le problème, hein. Où sont les femmes, si j'ose dire, dans le livre? C'est-à-dire, il y a les épouses. On en parle en passant. Il y a la sexualité, évidemment, mais qui est d'ailleurs aussi l'homosexualité.
Oh bah c'est assez prude hein, quand même dans votre livre, Andreas Beyer, justement, mais c'est votre sujet qui vous y invite. C'est d'ailleurs dans son traité de la peinture, Dürer suggérait aux peintres de ne jamais regarder une femme nue, de ne jamais aimer, d'être d'une certaine manière chaste.
Ah oui, c'est la diétique de l'époque. Pour les artistes, il faut manger juste, il ne faut pas être avec les femmes. Faut pas la masturbation, etc., etc. Il y a vraiment des règles qui sont très chastes, c'est vrai. Très.
Mais ce qu'on comprend aussi, hein, Andreas Beyer, c'est que en partant justement de My Bed et de l'art contemporain, on regarde d'un autre œil des œuvres extraordinaires, comme justement, on en parlait, Jean-Claude Schmitt, ces 6 études d'oreiller, d'une certaine manière, là, c'est vous, comme historien des rêves, et en particulier des rêves autobiographiques, puisque Dürer a aussi peint et raconté ses rêves, qui s'expriment là, dans l'empreinte, également. Oui.
Dürer est le premier artiste à avoir peint son rêve. C'est un autoportrait onirique. C'est 1525, très peu de temps avant sa mort. Hein. Et c'est ce fameux cauchemar de fin du monde, finalement. Or, c'est une aquarelle qui représente donc ce qu'il a vu en rêve et qu'il décrit en dessous, dans sa langue vernaculaire, en allemand, en le signant et en le datant. C'est absolument révolutionnaire.
C'est magnifique.
Parce que jusque-là, les images de rêve, ce sont toujours les images des rêves des autres, c'est-à-dire les rêves bibliques, les rêves politiques, etc. Pas le texte. On peut parler de ses propres rêves, mais en peinture, en dessin, c'est toujours les rêves des autres. Et là, il est le premier. Et ça, pour moi, c'est absolument formidable comme tourment.
Et c'est pour ça que vous le mettez en regard avec Goya, de même que cette peinture de nu souffrant, vous la mettez en regard avec Egon Schiele. Là, bien entendu, Andreas Beyer, pour vous, comme historien de l'art, ce qui se joue, c'est l'aventure de la modernité.
Oui, il est vrai que le dessin de Weimar, que j'ai mentionné avant, ce nu, c'est le premier autoportrait nu d'un homme en histoire de l'art occidental. Et il faut attendre jusqu'à Schiele.
Jusqu'au 1911.
Début du XXe siècle, pour en avoir un autre.
Ah, Jean-Claude Schmitt n'est pas d'accord.
Oui, je ferai de réserve quand même.
Oui, dites-moi.
Il y a quelqu'un dont vous ne parlez pas, et c'est Matthäus Schwarz, qui était le financier des Fugger, et qui s'est fait représenter par son ami peintre, qui s'appelait Narcisse Renner. On s'appelait Narcisse en plus.
Mmh, c'est bien.
Narcisse Renner, et qui, pendant toute sa vie, l'a représenté 137 fois, chaque fois qu'il changeait de costume.
Ah, c'est lui dont on a le livre, le fameux livre des costumes.
Livre des costumes.
Oui, ça c'est vrai.
Donc, or, au milieu de ce livre, il se fait représenter nu, de face et de dos.
Mais je parlais d'autoportrait.
Alors là, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait un autoportrait, puisque ce n'est pas lui qui peint. Oui. Mais enfin, ils sont très complices.
Oui, mais c'est spectaculaire ce livre, j'adore.
Voilà. Et il me semble que ça pose aussi le problème peut-être des peintres un peu mineurs par rapport aux très grands peintres dont vous parlez. Hein, lui, vous n'en parlez pas, mais il est, me semble-t-il, très important pour ça, et notamment pour ça, pas seulement.
Eh bien, si on est d'accord. Si on est d'accord, eh ben, dans ce cas-là, on écoute The Smiths. Hortense Bellotte, bonjour, on est content de vous retrouver.
Oh, ben je suis très contente aussi.
Alors, vous arrivez avec quoi? Une petite chronique?
Eh oui. En février 2025, le rappeur rouennais de 29 ans, Riles, court 24 heures devant des scies circulaires en ne s'arrêtant que pour se soulager, pudiquement, comme une preuve de dépassement de soi après la sortie de son dernier album et de sa résilience après des temps difficiles et même des tentatives de suicide. La course à pied et l'amour, dit-il, m'ont sauvé. À défaut d'amour, il y a 3 semaines, moi j'ai couru le marathon de Paris.
Bravo.
Sans préparation. Alors ça n'est absolument pas conseillé, mais comme je suis ascendant Lion comme Albert Durer, si l'on en croit les astrologues du XVIe siècle, cela nous prédestine à être maigrichons et prédisposés à pas grand-chose, sauf au marathon, donc ça tombait bien. Je me suis dit, Hortense, si ça passe, ça voudra dire que tu es capable de remplir le théâtre de l'Atelier à Paris pendant 8 semaines avec tes 2 derniers spectacles, tous les mardis et mercredis, dépêchez-vous, que tu es capable de terminer d'écrire ton livre, de garder ta nièce pendant 1 semaine en vacances et de faire un enfant. Ma psy dit que tout ça n'a absolument aucun lien, mais dans le doute, je suis quand même assez contente de l'avoir fait. Attention, je ne voudrais pas participer par là à un culte du corps et de la performance qui n'a que trop duré. Et je vous invite d'ailleurs à lire à ce propos les travaux de Lucie Camus et Noanger autour de l'invisibilisation des artistes handicapés et de l'art creep, en anglais, estropié, boiteux, infirme, qui comme queer est un terme péjoratif récupéré par les personnes concernées. Une intersectionnalité de leurs normes qui impose un grand oui à la question « Mon corps tel qu'il est, peut-il faire de l'art ?» Ce que je voulais, en vous racontant mon épisode sportif, c'était simplement créer une archive sonore témoignant d'une réalité, d'un corps d'artiste femme aujourd'hui. C'est important, car pour les périodes anciennes, les sources souvent sont assez rares. Des corps de femmes artistes, on en a quelques-uns au musée des Offices à Florence, dans la galerie des autoportraits. On y croise par exemple les regards de Madame Vigée-Lebrun, de Rosalba Carriera, de Lavinia Fontana. Pour le début du XVIe siècle, on peut se référer évidemment aux vies de Vasari, le biographe paparazzi gossip boy de la Renaissance italienne,
exactement,
dont la première édition présentait 142 hommes et une femme. Dans la seconde, il en ajoute 3, mais pas dans des entrées individuelles, à la suite de la première, comme s'il y avait un sens organique à les regrouper. Il y cite l'Orlando Furioso de l'Arioste, « Les femmes ont réussi à exceller dans tous les arts auxquels elles ont consacré de l'attention. » Mais alors, pourquoi y en a-t-il eu si peu? Eh bien, peut-être devons-nous en conclure que les femmes sont davantage sujettes aux troubles du déficit de l'attention. La première qu'il cite, c'est Properzia de Rossi, une sculptrice de Bologne. Vasari nous dit qu'elle pratique aussi bien le chant que la musique, donc certainement sujette à un TDAH avec hyperactivité, et si minutieuse qu'elle sculpte même une passion du Christ dans un noyau de pêche. Si, si, avec les 12 apôtres et tout, précise-t-il. Malheureusement, le jour où le pape demande à la rencontrer, son corps vient de la lâcher. Elle est morte. Côté peinture, Vasari cite ensuite notamment Sofonisba Anguissola. Née à Crémone en 1532, au milieu d'une brochette de sœurs surdouées, elle travaille dans toute l'Europe et multiplie les autoportraits avec des mises en scène maniéristes troublantes. Et ce, jusqu'à sa mort, à l'âge de 93 ans. Alors qu'elle a, selon le peintre Van Dyck qui lui rend visite, quasiment perdu la vue et doit se coller à sa toile pour peindre. Anguissola est, à mon avis, comparable à Dürer en termes de conscience artistique aiguë de son propre corps, comme si elle était née plusieurs siècles trop tôt. La modernité de son corpus d'œuvres, surgissant de l'oubli, ne peut que nous renvoyer, en tant que spectatrice, à notre propre être au monde.
Merci, merci Hortense Bellotte, mais dites-moi, vous avez lu le livre d'Andreas Beyer, peut-être qu'on peut rentrer justement en conversation à partir de cette question.
Eh bien, j'ai lu votre livre et je l'ai beaucoup aimé, et je l'ai lu à la fois avec un regard d'historien, et aussi j'ai adoré le côté très pragmatique du manuel du XVIe siècle sur comment échapper au burn-out quand on travaille dans la culture. Et il y a plein de conseils.
Oui.
On y trouve plein d'astuces. Il y a donc faire gaffe à son hygiène de vie. J'aime beaucoup le conseil, si vraiment, vraiment ça va pas, faut faire un instrument à cordes.
Faut jouer de la guitare.
Voilà. Oui. Moi, je fais partie des gens. Oui. Franchement, Bob Dylan m'a sauvé plus d'une fois d'épisodes suicidaires. Et évidemment, j'ai adoré aussi l'histoire du peintre qui plaque tout et se reconvertit en ouvrant un resto. Et l'objectif étant à chaque fois de ne pas se suicider, ni de se tuer à la tâche et de mourir à 37 ans comme Raphaël et Zuccari. Et alors, au lieu de recréer une espèce de mythologie du Club 37, de nos rockers de la Renaissance, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous critiquez aussi la mythologie du corps de l'artiste en déshabillant un petit peu cette narration. Et j'ai adoré, alors c'est pas de vous, c'est de la Renaissance, mais une des preuves qu'il n'y a aucun lien entre le corps de l'artiste et ses œuvres, c'est que, par exemple, les enfants de Giotto étaient hyper moches. Comme quoi, on n'engendre pas que des chefs-d'œuvre biologiquement et artistiquement. Bref, tout ça pour vous dire que, alors quand j'ai lu le livre, moi je m'attendais à avoir des références au poème 31 d'Aristote, « L'homme de génie et la mélancolie », qui qui est un petit peu le truc du mythe de la mélancolie herculéenne, saturnienne, justement. Est-ce que c'est délibérément pour sortir du cliché que vous ne le citez pas, ou est-ce que c'est parce que ce n'est pas une référence à l'époque, au XVIe siècle ?
Andreas Beyer.
Non, non, bien sûr. Une forte référence, déjà au XVe siècle, avec Ficin, etc., à Florence. Mais je crois, en fait, que, par exemple, Dürer, il est trop associé à cette mélancolie saturnienne, triste, dépressive, tandis qu'il est mercurien, il est fort, il a une force créatrice. Donc, il y a ces deux aspects. Une autre chose que vous évoquez, que vous mentionnez, c'est cette absence des femmes. Il faut aussi considérer que Vasari, dans l'introduction de ses vies, il dit que les femmes savent faire les enfants. Donc, c'est clair qu'ils savent aussi faire des portraits. C'est pas un grand effort pour eux, l'art mimétique. Comme elles font les enfants, ils peuvent créer l'image d'un homme. Et c'est pour ça qu'il dit l'art d'un homme est beaucoup plus à respecter, parce qu'il doit travailler avec le cerveau. Il doit inventer quelque chose pour représenter un homme, tandis que la femme, elle le fait d'une façon quasi naturelle. Et ça, c'est un discours qui n'a pas trop encore été commenté dans la recherche, mais qui explique peut-être un peu pourquoi les œuvres des artistes féminins n'étaient pas vraiment au centre de l'ascension.
Jean-Claude Schmitt.
On peut signaler la très belle exposition du musée Jacquemart-André en ce moment, autour précisément d'une femme peintre, artiste très importante, qui est Artemisia Gentileschi, de Rome, qui est allée à Florence, qui est revenue à Rome, qui est partie en Angleterre, etc., qui a eu une carrière, qui a fait des enfants aussi. Elle a eu des enfants. Et ce qui est très intéressant dans cette exposition, c'est justement la place du corps. C'est-à-dire que c'est le corps artiste, on voit que ça fonctionne très bien au féminin. Il se trouve que dans sa biographie, elle a été violée à 17 ans. Et qu'ensuite, cette violence subie, se reproduit, en somme, dans les thèmes, dans le choix des thèmes, et surtout dans la manière de les traiter, notamment autour de la scène de Judith et Holoferne. Hein, Judith qui décapite Holoferne. C'est son chef-d'œuvre par excellence. Et il me semble que c'est dans la continuité de ces quelques cas très rares du XVIe siècle. Ouais. Un siècle plus tard, Artemisia est un très bon exemple. Ouais.
Andreas Beyer.
Et aussi, vous avez mentionné Sophonis Banguissola. Je suis tout à fait d'accord. C'est magnifique, surtout ses autres portraits, cette série. Dürer, il fait trois grands autoportraits très tôt. Après, il fait encore des dessins, mais jamais une autre toile de soi-même. Sophonis Ban, elle a toute sa vie.
Elle s'est archivée, en fait. Elle a documenté.
En effet. Il y avait un moment où je disais il faut faire un chapitre sur elle, mais c'était juste à ce moment que la monographie de Michael Cole sur Sophonis Banguissola sortait aux États-Unis. Alors, c'est magnifique, c'est un très beau livre. Alors, je me suis dit, voilà, il y a un livre sur ça, il ne faut pas que j'y ajoute un chapitre.
Eh bien, c'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Andreas Beyer, Jean-Claude Schmitt et Hortense Bellotte. Les références de vos livres, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Lilou Maupetit, à la prise de son Alex Dang et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et à vous tous.